L'âge bête sur RCN.
Bonjour, ravi de vous retrouver dans l'âge bête. Bonjour l'équipe.
Salut.
Allez, oh, bien dans le cœur cette fois-ci. Allez, on est reparti pour une demi-heure avant les vacances. C'est la dernière avant les vacances. Et on se retrouvera bien sûr à la rentrée. On va parler de plein de choses. Alan, ton énigme.
Comme d'habitude.
Bien évidemment, à la fin de l'émission. Dans quelques instants, Naïm, tu nous parles d'un artiste comme toutes les deux semaines. Et aujourd'hui, c'est
Luther.
Et on va parler quiz. Tu auras, on aura le quiz de culture générale. Je suis pas habitué, c'est Margot qui nous fait exceptionnellement aujourd'hui. Et puis tout de suite, on va parler histoire avec toi, Clément, avec une chronique un peu particulière.
Chronique particulière, le château de Jauny. Je développerai un peu après.
Bon, voilà, on en parle tout de suite. Et puis, bien sûr, une citation pour finir. Soleil, bienvenue dans l'âge bête. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h30.
RCN, l'âge bête.
Allez, c'est parti, il est 14h01, on parle histoire avec toi, Clément, et tu nous parles donc du château de Jauny.
Donc oui, et aujourd'hui, bien, les trois sujets ils sont en lien avec ce château. Donc Jauny, c'est un petit village à côté de Thiocourt. Et je tiens aussi à remercier donc tout particulièrement Monsieur Pénétra, donc le propriétaire du château, et Madame Delabre, qui est une professeure de français du lycée,
qui a permis
en contact
de réaliser.
Et donc sans plus attendre, eh bien on va commencer donc avec une légende, celle de Jeanne des Armoises, qu'on peut voir dans la salle des portraits, donc dans ce château. Mais d'abord, est-ce que vous avez déjà entendu parler de cette Jeanne des Armoises? Et est-ce que vous savez qui elle est?
Non.
Personnellement,
j'étais sûr que ça allait être très très compliqué.
C'est
est-ce
un
que tu peux nous aider un petit peu?
Alors,
par exemple, sur sa fonction.
C'est une. Comment t'aider là-dessus?
Bon, vas-y, dis-nous.
Je pense que je vais vous expliquer directement la légende, ce sera plus simple pour comprendre. Donc, cette Jeanne, elle apparaît 5 ans après la mort de Jeanne d'Arc, soit en 1436 à Metz. Donc, selon un doyen religieux de la ville, elle se présente comme la native de Don Rémy. Et ses frères bien la reconnaissent même en tant que Jeanne d'Arc. Donc la ville d'Orléans, elle envoie un messager donc qui était proche de Jeanne d'Arc, et même ce dernier bien il la reconnaît. Donc ensuite elle va retourner à Orléans plusieurs fois, et bien tout le monde va encore une fois la reconnaître comme Jeanne d'Arc. Et donc cette Jeanne des Armoises, donc elle a vécu en partie à Jauny. Donc jusqu'ici vous me direz que ça peut être n'importe qui se fait passer pour elle et qui lui ressemble.
Oui, c'est sûr.
Oui.
Mais il y a quelques détails qui vont interpeller. Alors tout d'abord, son blason. Son blason, il regroupe celui des Armoises, donc la famille à laquelle elle appartient.
Oui.
Mais aussi la fleur de lys.
De la royauté.
Qui est pourtant réservée donc, aux membres de la famille royale. Les registres des naissances de la famille royale, eux, montrent bien que la reine elle a accouché d'une ou d'un enfant issu d'un adultère. Et qui aurait été ensuite cachée. Alors, est-ce que ça... dont
ça
on n'a jamais d'ailleurs retrouvé les ossements.
Mm-hmm.
Est-ce que ça pourrait être elle? Est-ce que ça ne pourrait pas l'être?
Oui, on ne sait pas, en
on
fait.
On n'a pas encore de réponse. Donc, elle aurait très bien pu être amenée donc, à la frontière de la Lorraine pour être en sécurité, sachant qu'elle a été amenée dans une famille noble. Hein. C'était pas n'importe quelle famille. Selon les textes aussi, Jeanne d'Arc, c'est la seule sorcière à n'avoir jamais été torturée par les Anglais. Et donc c'est possible, donc elle n'ait jamais été sur ce bûcher. Et puis il y a aussi les caisses de l'État d'Angleterre qui sont renflouées le lendemain de sa présumée mort. Ce qui laisse bien imaginer que Charles VII aurait pu payer le roi d'Angleterre pour libérer sa sœur ou sa demi-sœur en tout cas.
D'accord.
Voilà, donc en fait il y a plein de preuves ou de, enfin en tout cas d'idées de petites
qui concordent, entre elles.
Qui concordent sur cela,
sur son identité.
Maintenant, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, à vous de voir. Il y a des ouvrages qui sont parus là-dessus, mais pour l'instant bien ça reste qu'une légende, donc les historiens ne sont pas forcément tous d'accord avec ça d'ailleurs.
D'accord.
On va passer avec une deuxième petite histoire, une fois que j'ai fini cette légende. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce château auparavant? Est-ce que vous avez déjà vu une photo, une idée de à quoi ça ressemble?
Oui, moi j'y suis passé plusieurs fois devant, mais...
Je ne l'ai jamais visité par contre.
Non.
Oui, moi non plus.
Est-ce qu'il est visible déjà au grand public?
Alors oui, il est visible au grand public, hein. Moi je l'ai visité avec une visite publique, voilà.
D'accord, donc il y a des visites qui sont organisées par...
Oui, bah alors sur le quand on va sur le site de, du château de Jolny, en D'accord. fait, on peut voir quand sont les prochaines visites. Alors là, c'était la dernière de la saison, donc mais il y a encore des événements jusqu'à la fin de l'année.
D'accord.
Mais alors du coup, bien le château, il est construit sur un éperon rocheux, donc juste au-dessus du rupt de Mad, donc c'est la rivière qui est juste en dessous. Mmh. Et puis de l'autre côté de la rivière, on était plus sur le territoire de Jolny, mais on était sur celui du duché de Bar. Donc vraiment, c'était la frontière, ce ruisseau. Mmh. Et donc ce château, bien en fait, il servait de bastion d'appoint au cas où il y avait invasion ou attaque. Mmh. Et après, on appelait les renforts, Après-Ny, etc.
Oui, c'est vrai que c'est une zone qui est, pour ceux qui connaissent pas, qui est vraiment en contrebas. Hein. C'est, ça fait une... Oui, c'est ça, ça fait une grosse vallée au
oui,
final.
Voilà, en fait, un rempart qui oui. est juste au-dessus du ruisseau.
Oui, c'est ça, ouais, ouais. ouais.
Donc je tiens aussi à dire que depuis 1060 et Milon de Jolny, donc Milon de Jolny, c'était le premier dont on a la trace à Jolny. Bien le château, il a été modifié, il a été rehaussé même, puisque bien le donjon qui est visible aujourd'hui, il date du 15e ou du 15e ou du 14e siècle, pardon. Et ensuite, bien il a été de nouveau creusé pour former un U. En fait, donc le bâtiment est en U. Ce qui est plutôt particulier.
Oui, c'est pas.
Et comme ça, ça fait en fait moins imposant qu'avant. Et on a un style Renaissance qui est très présent également avec l'escalier central, donc dans le château. Ce qui lui donne toute sa splendeur en fait. C'est dommage que vous l'ayez jamais vu. Parce que là, du coup, vous n'avez pas vraiment de quoi je parle. Mais en gros, vous avez un escalier qui fait un demi-tour pour arriver à l'étage.
Oui, oui, d'accord.
Et ensuite, on a les caves, donc qui sont à trois niveaux, ce qui est aussi spécial. C'est classé monument historique, si je me trompe pas. Et puis, donc, avant, il y avait sans doute une entrée pour monter dans le château depuis en dessous des caves, parce qu'on a des escaliers qui descendent dans les caves, notamment des escaliers pour chevaux. Donc, c'est possible qu'il y avait une entrée
des
en bas.
Des escaliers pour chevaux.
Oui, en fait, c'est, c'est une rampe escalier pour chevaux où les marches sont plus petites et la pente est plus douce.
Oui, d'accord, ok, oui, okay. Parce que j'allais dire un escalier pour des chevaux, je ne vois pas ce que c'est.
Et ben maintenant, tu verras. Et enfin, dans beaucoup de salles, il y a des poutres. Des poutres, vous me direz, c'est tout à fait normal.
Oui,
oui, mais sur ces poutres, il y a des moulures qui sont tout à fait exceptionnelles. Ça, dans presque toutes les pièces. Donc, ces moulures, elles représentent autant un éléphant qu'un dragon, que le réel et l'irréel.
Original.
Voilà,
oui, c'est vrai.
En fait,
oui,
elles sont moulées. C'est des moulures sur du bois.
Mais c'est des moulures en quoi?
Sur bois. Du bois.
Non, mais c'est. Oui, non, mais
c'est moulé dans
c'est
la poutre, en fait. C'est sculpté dans la poutre.
Dans le bois. Oui, voilà. D'accord.
Et donc, en fait, il y en a dans toutes les salles qui se suivent. C'est plutôt beau à voir. Et enfin, on finit avec l'histoire de la famille des Jolny et des Armoises. Est-ce que vous avez une idée du lien qu'il y a entre les deux? Puisque j'ai parlé tout à l'heure de Jeanne des Armoises dans ce château de Jolny.
Oui.
Est-ce que vous avez une idée du lien qu'il peut y avoir entre ces deux familles?
Entre la famille des Jolny?
Ouais.
Et
celle des Armoises.
Des Armoises.
Vas-y, éclaire-nous.
Oui.
Des vraies informations, s'il te plaît.
Oui, une vraie information, parce que là, Alan, tu dis vraiment n'importe quoi. Donc,
non, mais pour la lier famille, les familles, quoi.
La famille des Armoises, elle vient du duché de Bar. elle est originaire des Ardennes.
Ah, ok.
Et donc, la famille Jolny, elle vit dans Jolny, donc dans
son
territoire.
Ça, c'est plutôt logique jusqu'ici.
Donc, on a dit que le duché de Bar et les Jolny, ils étaient rivaux. Jusque-là, mm-hmm. tout va bien. Et donc, les ennemis, en 1357, pardon, l'héritier des Jolny, Robin de Jolny, il va décider d'épouser une fille des Armoises.
Eh ben, on y vient, non? C'est oui, presque ce que j'ai dit.
On aurait pu le dire d'une manière un peu plus,
quoi.
un peu plus belle. Et donc, il obtient alors le château de Bouc, ce Robin de Jolny, et il peut quand même garder un tiers du château. Et des droits bien sur la localité.
Donc sur Jolny.
Voilà, mais il abandonne son titre d'héritier. Il peut plus gouverner en tout cas.
D'accord.
Ok.
Donc ça pose plus de problèmes qu'autre chose. Et puis donc ses descendants, bien ils vont céder leur part contre le duché de Lorraine, qui est quand même bien plus imposant et puissant que la famille des Armoises et que la famille des Jolny du coup. Donc là, on peut se dire que les Jolny vont forcément se faire petits face à la Lorraine, mais que nenni. Eh bien, un jour, un Lorrain ramène une vache des Jolny qui est blessée, qui est blessé, hein, Martin, je te vois faire une tête.
Oui, non, mais...
Et donc, ces derniers, bien, ils se font entendre. Ça va engendrer une réaction Lorraine, hein, qui va envoyer une petite garnison pour calmer les esprits. Ça va tourner au vinaigre, ça va dégénérer. Et donc, après 500 ans de domination des Jolny sur la localité, eh bien, le duché de Lorraine va récupérer l'entièreté du territoire pour le donner aux Armoises.
Ah oui, carrément.
Voilà.
D'accord.
Donc jusqu'à la Révolution française. Et puis par la suite, il a été notamment, il a résisté notamment à un obus qui est tombé pendant la Première Guerre mondiale.
Au niveau de Johnny.
Dans un mur du château qui n'a pas explosé. C'est un miracle. Et en fait, ce château, c'est un miracle qu'il soit encore debout. Il a résisté à plusieurs guerres, à cet obus de la Première Guerre mondiale, puisque d'ailleurs. Pendant la Première Guerre mondiale, il a servi d'hôpital allemand, bien pour.
Oui, parce que c'était une zone occupée par les Allemands à ce endroit-là.
Et ensuite, il a été libéré, bien par les Américains, qui l'ont occupé encore 3 ans après, qui ont même presque essayé de piller, en tout cas, le château, qui sont notamment partis avec un tableau qui représente le château depuis le rupt de Mad. Bon, ce château, il a été, ce tableau, pardon. Il a été renvoyé au château et exposé dans une des chambres.
D'accord.
Donc vraiment, puis dernièrement, le château, il a résisté aux pluies et à l'eau. Parce que jusqu'à ce que Monsieur Pénétrard rachète le château, en fait, il y avait des fuites d'eau d'un peu partout dans le château.
Oui, donc il a été rénové depuis. Donc en tout cas, tu nous disais qu'il est visitable pour ceux qui veulent.
C'est ça, et donc je tiens encore à remercier Madame Delabre et Monsieur Pénétrin pour avoir rendu donc la chronique possible, notamment. Et puis, je vous invite à aller visiter aussi le château pour soutenir les travaux, continuer de le restaurer. Là, il y a des travaux qui vont être menés à hauteur de 2,2 millions d'euros. C'est quand même imposant.
Bel investissement pour un beau château.
Ouais, voilà,
c'est
donc,
un très beau château, en tout cas, d'extérieur.
Puis c'est un château qui revit aussi grâce à un bon nombre d'activités qui sont organisées.
Eh bien, merci Clément pour ce bien bel éclairage sur un très beau château de notre belle région.
Hein, de voilà. Jolny, il s'appelle. J'ai l'impression que tu as galéré un peu.
Ah non, non, bah non, Jolny, non, le château de Jolny, ça va, je connais bien. Pour faire du vélo, c'est pas mal, ça grimpe et ça descend bien, c'est très intéressant. C'est d'ailleurs là où il y a le pont TGV le plus haut dans la vallée, c'est pas pour rien. Allez, on va parler musique tout de suite avec toi, Naïm.
Oui, et vous connaissez la rengaine, nouvelle chronique, nouveau genre musical.
Ah, c'est reparti.
Et aujourd'hui, on va parler de musique plug. Donc ça pourrait se traduire par prise en français, mais c'est moyennement stylé.
c'est pas faux.
Musique prise.
Donc la plug, c'est un mouvement qui commence à apparaître vers 2013 aux États-Unis et qui commence à faire parler en 2014 quand des artistes connus s'y essayent. Donc par exemple Playboi Carti, Kodak Black ou Lil Yachty. Et un des premiers morceaux de plug qui va vraiment avoir un petit succès, c'est We Don't Love Him de Udrich Pablo Juan. Je sais pas si je le dis bien.
Oui, de toute façon.
On te corrigera pas.
Exactement, bilingue en espagnol. Et dont on va écouter un extrait tout de suite. The money go with Ago, smoking on gelato, foreign car and swerving Pajo, bad bitch she from Chicago, she freaky she gon' bust, she think it fuck on lust, I got her from my cousin, so what cause we don't love her, fuck that. On va peut-être remarquer, à première vue, c'est un morceau de rap assez basique, qui a pas grand chose d'intéressant. Mais ceux entre vous qui ont l'oreille musicale, notamment au niveau du rythme, donc je pense à Martin par exemple,
oui.
On peut peut-être remarquer qu'il y a comme une espèce de truc qui cloche sans trop savoir quoi exactement.
Ouais, disons que c'est régulier par moment, c'est assez
exactement.
Particulier, ouais.
Très, très bien vu, je reconnais le talent. Je vais donc vous l'expliquer.
Le talent du musicien.
Non, mais c'est exactement ça. Ce qu'on appelle la plug aujourd'hui, c'est une combinaison de prods qu'on appelle plug et d'une façon de chanter et de rapper qu'on appelle le DMV flow. Et donc les prods plug sont très aériennes, avec des percussions beaucoup plus légères et calmes que des morceaux hip-hop plus classiques.
Oui.
Qui ont tendance à être un peu à taper assez fort. Et les samples et les mélodies sont très planantes, avec pour objectif de donner l'impression de flotter un peu comme dans un rêve. D'ailleurs, on peut écouter un extrait justement de prod plug. Et donc l'autre élément, le flow d'IMV, c'est une façon alternative de placer sa voix, donc très bien vu de la part de Martin.
Bon, en fait, c'est pas du tout dans le... On a l'impression que c'est même pas calé au final par
oui,
rapport
exactement.
À l'instrumentation, c'est
on va donc commencer par placer les syllabes un peu en avance ou en retard.
d'où cette impression que quelque chose ne va pas. Donc en fait, il rappe au bon rythme, ou il chante au bon rythme en fonction des morceaux, mais avec un décalage, donc ça peut être un quart de temps en avance ou en retard. Ce qui donne cette impression un peu
étrange. Et c'est même pas du contre-temps, c'est bizarre, vraiment... Voilà.
C'est juste qu'il n'est pas dans les temps, mais ils sont quand même avec le bon rythme. Et c'est volontairement pas dans les temps. Donc la voix est souvent très monotone, sauf sur la dernière syllabe qu'on va venir accentuer. Et c'est aussi courant de faire ce qu'on appelle des overlaps. Donc autrement dit, la fin d'une phrase va être superposée au début de la phrase d'après. Mm. Donc évidemment, on peut pas le faire en live,
oui,
en direct.
Oui, c'est forcément du coup du montage.
Voilà, ouais. Après par le producteur. Donc pour illustrer, on va écouter un petit extrait justement de Flow DMV, venant du morceau qu'on va écouter après.
Heureusement que mon pote m'a rappelé ses pensées suicidaires. Je préfère rester discret. J'suis seul à la maison, je prends du noir, envie dans le frigidaire. Chaque jour qui passe, je replonge dans le fond. J'éclate mon crâne dans le son. Et lui le con, on dit qu'il est bon. Mais
et donc le mouvement plug prend en importance en France à partir de 2022. Exertistes comme Luther, Serra, Najon Crack, dont on a déjà parlé quelques fois.
Oui, c'est vrai.
8Ruki et JMK. Et des producteurs comme Brixy, 3G ou encore Néofront. Et justement, puisqu'on parle de Luther et de Néofront, le morceau qu'on va écouter aujourd'hui s'appelle Gélacé ou Glacé, tout simplement. Et c'est un morceau de Luther produit par Néofront qu'on peut écouter tout de suite.
Lâche bête sur RCN.
14h et quasiment 20 minutes sur RCN. Vous êtes bien dans l'âge bête. On a parlé histoire avec la fabuleuse histoire du château de Jauny. On a parlé musique à l'instant. Et puis donc désormais, on va faire notre quiz de culture générale. Exceptionnellement, c'est avec toi, Margot.
Exactement. Alors, c'est parti. On va voir si vous avez de la culture.
Mais donc, oui, bien sûr.
Parlons un peu physique.
Un truc, n'oubliez pas de noter qui a
les points.
Je note les points.
Ah, Martin le fait.
Ok, nickel. Donc, pas de triche, s'il vous plaît, à côté de moi. Comment appelle-t-on l'instrument qui permet de mesurer la pression atmosphérique ?
Un baromètre.
Exactement, voilà, il y a des physiciens parmi nous.
On se tape des barres.
Oui.
On se tape des barreaux, même.
suivant. Qui a inventé la première voiture ?
C'est moi.
Faut remonter un peu. Oh là !
On avait parlé de voiture.
On avait parlé avec la semaine dernière.
Il y a deux semaines. Il y a deux semaines. Je sais plus.
Non, mais après, les premières voitures, c'est quoi ? C'est
86,
les premières voitures.
1886.
Bon, on sait pas.
J'étais très très loin.
On sait pas.
Bah, c'est plutôt Carl Benz.
Oh, mais wow, voilà, on avait parlé de.
Maintenant, ça paraît évident.
Pas de Denver.
On avait parlé de son fils.
Non. De son associé.
De son associé,
oui, bah oui,
bon. Qui a inventé le moteur thermique.
Explosion.
Voilà. Exactement. Donc, un peu histoire, je compte sur toi Clément. À quoi servait le musée d'Orsay avant de devenir donc un musée ?
C'était une gare.
Oh, oui !
Ah bah non,
ça,
le ferroviaire, je suis désolé, c'est mon domaine réservé.
C'est moche. En plus, voilà. Ça s'appelle un quai d'Orsay. Alors un quai, c'est comme dans une gare.
Bah oui.
Voilà,
oui.
D'où le musée du quai d'Orsay.
Bien, okay. C'est bien. Allez, question suivante.
Alors, quelle mer est la plus grande du monde en superficie ?
Quelle quoi ?
La mer, l'océan.
Bah, l'océan enfin, Pacifique.
La mer.
Ah, océan,
je parle de
Pacifique.
La mer, mais pour vous, pas vos mamans.
Bah, non, mais c'est l'océan Pacifique.
La mer.
Une mer, pas un océan.
La mer Méditerranée ?
Non.
La mer.
J'allais dire la mer Rouge, mais pas du tout.
Non plus.
La mer Noire ?
Non.
La mer Caspienne.
Vous voulez une aide ? Enfin, une réponse plutôt. C'est donc la mer des Philippines.
Ah bah, enchanté de la connaître,
ben,
mais c'est pas une mer fermée.
Enfin,
oui, c'est ça.
Mais aucune.
Je sais pas. Bon, en même temps, la Méditerranée, pas
non,
vraiment
elle est
non
pas
plus.
Fermée.
La mer Noire, pas vraiment non plus.
Bah,
au final,
voilà, c'est ça, c'est...
on parlerait de lac sinon.
J'sais exactement.
Pas.
Alors, suivant, dans quelle partie du corps humain se trouve l'humérus ?
L'humérus, c'est dans la jambe. Dans le bras ?
Bah, du coup, c'est dans le bras, voilà.
Ah, il me semblait bien qu'il y avait un truc qui clochait là-dedans.
Aucun point. Zéro.
Bah,
j'ai quand même dit le bras après.
Non.
Je me suis rattrapé quand même vite fait.
Ouais, mais c'était mauvais.
Alors, comment appelle-t-on les habitants d'Alger ?
Les Algériens.
Non, bah non.
Voilà exactement l'erreur à ne pas faire.
Ce ne sont pas les Algériens, les agents.
Bah après, les habitants d'Alger sont Algériens.
Les Ajois ?
Oui,
les Algérois
peuvent être.
Des Algérois, tu y étais presque.
Ah.
Tu y étais presque. Voilà. Quel est l'écrivain américain célèbre pour ses romans d'horreur comme Ça ou Shining ?
Ah,
un peu de littérature, King, s'il vous plaît.
Oui, Stephen King, non ?
Oui,
bah, Stephen King.
Ah, c'est Stephen. Oui, c'est
Stephen King.
Bien joué.
Alors, petite anecdote. Quelle est la durée de gestation, donc de grossesse, d'un éléphant ?
24 mois, non ?
Deux ans,
un truc comme ça.
Ouais, c'est environ 22
mois.
24 mois, c'est. Oui, bah oui.
J'ai cru donner une réponse originale, mais pas tant que ça finalement.
Non, c'est vraiment ça. Toujours en parlant d'animaux, quel est l'animal le plus grand vivant sur Terre ?
En hauteur,
grand,
la girafe,
oui.
Un séquoia,
la baleine,
la baleine.
Ah. Oui, mais du coup, c'est sur Terre, la planète.
Oui, bah oui.
Oui, c'est pas sur Terre le sol.
Précisément, enfin voilà.
Elle débute dans le.
Oui, je précise général. Un peu de réponse précédente. Voilà. Oui, les séquoias sont des animaux. Allez vous faire foutre.
Tu avais dit quand même les séquoias.
Oui, ta gueule toi. Arrête de m'enfoncer.
Bon, bah je crois qu'on va ressortir sans citation pour la semaine prochaine. C'est noté. Allez, question suivante.
Alors dernière question, un peu plus compliquée. Quel est le flon le plus long? J'ai mélangé tout.
Ah oui,
quel est le plus long fleuve d'Europe?
Le Danube.
Non,
le Rhin.
Non plus.
Ben. On compte sur en Russie ou?
Oui.
Je sais plus comment il s'appelle.
Il est notamment en Russie du coup.
Le Tigre ou
sur le. Non.
Il est celui-là.
C'est la Volga.
Ah oui.
Ah. Voilà.
Ah, monsieur, je le connaissais pas.
Plus de 3600 km.
Ah, donc c'est pas du petit.
Et il passe notamment en Russie. Donc voilà. Nous avons fini nos petites questions.
On est déjà à 10 questions. Et bien, décidément,
on a enchaîné.
On a enchaîné les questions et puis j'ai l'impression qu'on n'a pas beaucoup répondu.
On
voilà,
est
moi qui ai loupé quelques.
Non, mais t'as rien loupé, Martin.
J'ai rien loupé. Donc
bah,
on a une question
réponses,
chacun.
Oh là là.
C'est, ouais, c'est,
il y
c'est
a
pas
du
terrible.
Level aujourd'hui, mais vous allez revoir
oui,
tout
mais
ça.
Parce que, oui, on voit ça la semaine prochaine, mais attention, puisque tu seras de... Pas la semaine prochaine, après les vacances, j'ai du mal à me, ah, me oui, mettre dans la tête. Merci Margot de nous avoir fait le quiz de culture générale exceptionnellement. Oui, parce que fais la manine.
Mais, mais moi, je suis nulle en culture générale, je tiens à vous informer tout de suite.
Allez, tout de suite, c'est l'heure de l'énigme.
RCN, l'âge bête.
Alors, pour cette fois, on va voir si votre coefficient intellectuel est supérieur au nombre de gens autour de cette table, c'est-à-dire toujours 5, on avait déjà prouvé que c'était pas le cas, sauf pour Otilie la dernière fois, mais bref, je vous laisse une deuxième chance. Donc écoutez bien, chacun des détails de ma question, c'est important, d'accord ? Captez tous les petits détails.
Allons-y.
Alors, on est le 7 juin 2013 à 14h27 et il y a un TGV qui part de la gare de Paris et un qui part de la gare de Strasbourg qui vont se croiser. Ils n'ont pas d'arrêt et ils roulent, on va dire, à 180 km/h constamment.
Ah, c'est pas du
moi, je
TGV,
vous demande,
hein.
Au moment où ils se croisent, lequel est le plus proche de Paris ?
Mais...
Et
mais c'est quoi
on
la distance
peut refaire, mais... genre non,
on est le 7 juin 2013 à 14h27 et il y a un train qui sort, un TGV qui part de Paris qui va vers Strasbourg, un qui part de Strasbourg qui va vers Paris qui part à la même heure, ils roulent tous les deux à 180 km/h, ils vont dans des directions opposées. Je vous demande quand ils se croisent lequel est le plus proche de Paris.
Tu nous as donné la distance entre les deux ou
bah celui qui part de Paris
498 km.
Bah c'est la moitié.
Celui oui, mais qui part de Paris.
Quoi qu'il arrive,
y a
ils vont
une
se
descente,
croiser entre
peut-être.
Au milieu. Ils vont se croiser au milieu. Donc,
mais
les deux sont...
Non mais il y a plus simple
il...
que ça.
Vous n'avez pas écouté le détail.
Mais vous écoutez que dalle, non.
Mais tu me le dis.
On est le 7 juin 2013 à 14h27, les trains partent de Paris à Strasbourg, ils vont à 180 km/h, il y a 498 km entre Strasbourg et Paris. Quand ils se croisent, lequel est le plus proche de Paris ?
Bah les deux.
Merci Clément. Quand ils se croisent, lequel est le plus proche ? Ils sont au même endroit.
Bah
oui, mais c'est pas la question.
Sur la ligne. Mais si, c'est la question. Lequel est le plus proche de Paris ? Il y en a pas. Ils sont tous les deux à la même distance, ils se croisent.
Oui, c'est...
Vous m'avez pas écouté.
Oui, c'est
votre coefficient intellectuel, sauf pour Clément du coup, est inférieur au nombre de gens autour de cette table.
C'est pas égoureux, t'avais pas demandé. Est-ce qu'ils sont aussi, est-ce qu'ils peuvent aussi être à la même distance ?
Je m'en fous de ça, c'est à vous de répondre. Moi j'ai ma question, vous me répondez, mais c'était qu'un piège.
La réponse attendue, répondez pas à la question.
En tout cas, normalement, si je parle en tant que ferroviaire et tout ça, normalement, si on suit la logique, ce serait plutôt celui qui est parti le premier de Paris. Parce
mais non,
que
mais
c'est plus
Martin,
lent
mais
de partir de
quand
Paris.
Quand est-ce qu'ils partent le 2013 ou le 7 juin, on s'en fout.
Oui,
quand ils se croisent, ils sont à la même distance.
Non, ça, j'ai compris.
Des deux extrêmes.
Mais si vous faites vraiment le test dans la réalité, ce sera le premier qui sera parti de Paris qui sera le plus proche.
Mais mathématiquement,
quand
non. Voilà.
En termes de temps. Bon, bref, en tout cas... Merci Anne pour cette énigme. Allez, on va terminer avec une citation. Une citation d'un commentateur que vous savez à la télé quand ils font le tiercé avec les chevaux là, vous savez ?
Oui.
Donc ils sont tous en train de dire voilà, il y a une course, tout ça, tout ça, tout ça. Et c'est une course qui se passe à Crio en Autriche.
Réunion 5 sur l'hippodrome de Crio, direction l'Autruche. L'Autruche.
Alors non, ce Crio n'est pas en Autruche, mais
chevaux,
en Autriche. Comment ça ?
Les hippodromes, c'est pas les parcours de chevaux ?
Oui, si, c'est les
voilà, chevaux. Du coup, bah, c'est pas des Autruches, c'est des chevaux.
Oui, enfin, non, mais... Vraiment, il est temps que l'équipe prenne des vacances.
Ouais, là,
je crois, le niveau est bien descendu. Allez, on se retrouve donc dans deux semaines pour bien après quelques petites vacances. D'ailleurs, au moment où on diffuse cette émission, nous on est tous partis, une grande partie en tout cas en voyage. Ouais. Il y en a qui seront en Angleterre,
à Prague.
Il y a Prague. Vraiment là.
Il y en a qui restent ici.
Oui, il y en a qui restent en Lorraine. Mais c'est bien la Lorraine.
Ah, incroyable. Il y a le château de Johnny.
Bah voilà, ouais, exactement, on revient au début de l'émission.
Non, mais il faut aller le visiter ce château.
Il faut
le mérite d'exister.
Si c'est possible. Ouais, non, c'est un très beau château. Bah, merci l'équipe, on se retrouve donc dans deux semaines pour une nouvelle émission de l'âge bête. Merci à Pierre à la technique et puis donc dans deux semaines. Salut l'équipe.
Salut.